Vous allez bien? Vivement qu'on mette la clim, c'est ça? Rassurez-vous, la clim naturelle va revenir, il annonce. Ça va descendre. Ces derniers temps, la presse, la radio, la toile, Internet, s'est emparée d'un débat lancé par le témoignage public de la religion. Et une des choses qui a été demandée aux religieux, par voie de presse, par voie officielle, c'est que le peuple religieux soit discret. Discret. Ne fasse pas de vagues. Et on discute sur les ondes, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est normal, est-ce que la loi 1905, etc., etc. Et ce matin, mon point n'est pas de prendre part à ce genre de discussion, ni à faire de la politique, je rassure ceux qui nous visitent, mais de voir comment, au travers des temps, Dieu a protégé son peuple, même quand il était dans une situation très difficile. On a vu la semaine dernière, dans Exode 17, comment le peuple qui avait été délivré et qui était sous l'autorité, sous la mainmise de Dieu, râler au premier événement. On n'a pas d'eau, on n'a pas de viande, on n'a pas de pain, on n'a pas. Et comment Dieu avait finalement supporté ce peuple incrédule. Aujourd'hui, je vous propose de faire un survol d'un petit livre. Un petit livre où vous ne trouverez pas, dans ce livre, qui pourtant est dans la Bible, le nom de Dieu. Voilà, Florence, elle le connaît. C'est Esther. Dans le livre d'Esther, il est question d'un peuple extraordinaire qui vit en Perse, qui vit sous la mainmise d'un roi, qui même va être condamné à mort. Et comment Dieu va protéger ce peuple avec une reine, avec celui qui l'a élevé, et comment Dieu, même dans la discrétion, quelque part, va donner du zèle à ce peuple pour que finalement ce peuple soit protégé. C'est bien plus qu'un simple récit historique, le livre d'Esther. Plein d'humour. Le peuple juif va affronter une tentative de destruction. En règle, programmée, réfléchie, financée et même autorisée par la plus haute autorité du pays, le roi Assuérus. Le peuple de Dieu est exilé, vit les conséquences de déportation de ses ancêtres. Et finalement, les Hébreux se sont adaptés à cette vie au milieu d'un peuple qui gère plusieurs dieux, je vais dire polythéiste, mais j'explique, mais aussi un peuple guerrier. Ils ont conservé certaines de leurs traditions liées à la pensée qu'ils appartiennent à l'Éternel. Ils vivent dans la soumission aux autorités de ce monde païen et ils ne peuvent pratiquer leur religion qu'avec discrétion. C'est dans ce contexte, somme toute banale, de la vie d'un peuple étranger qui s'est établi, intégré dans une société qui n'est pas celle de ses origines, qu'un personnage va faire sa première apparition. Dans l'ordre, on va d'abord trouver Aman. Aman, c'est un joli nom, ça dépend. Dans les sphères supérieures du royaume, au chapitre 3, verset 1, il apparaît, si vous voulez tourner les pages, on va lire quelques versets de temps en temps pour que vous puissiez suivre, peut-être pour que nos visiteurs voient qu'on parle de quelque chose qui est écrit. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata l'Agadite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi. Ha ! Il y a un roi et qui met en place une autorité qu'il faut, devant laquelle il faut s'incliner. Et là, il y a un deuxième personnage. Alors, pour ceux qui voudraient un tout petit peu d'histoire, en fait, Haman est un descendant, voilà, des Agadites du roi Agag, Amalek, les Amalécites. Et on a vu la semaine dernière que les Amalécites c'était ceux qui faisaient déjà la guerre aux Israélites. Et si vous voulez encore pousser plus loin, vous lirez dans 1 Samuel 15, versets 7 à 9, et vous y trouverez l'origine de ce peuple que Dieu avait destiné à la destruction, mais que le roi Saül n'a pas exterminé. Ça, c'est pour essayer de donner tous les fils. Aucune désobéissance n'est sans importance. Et la désobéissance, vous voyez, du roi Saül a amené des conséquences sur son peuple bien plus tard. Aucune rébellion n'a de conséquences. Il est important de savoir discerner quel est notre ennemi. Ici, on a un roi et on a un premier ministre devant lequel il faut s'incliner. Le verset 3 du chapitre 3 nous dit: mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Tiens, ça nous rappelle une autre histoire. Vous vous rappelez? Daniel ne s'inclinait pas. À qui on a demandé même de pas prier, et il a dit: moi, je vais prier. Et forcément, cela va avoir des conséquences. Les décisions prises, signées par le roi, semblent irréversibles. Il a décidé que le peuple allait être détruit. Haman voulait détruire le peuple parce que Mardoché ne s'était pas incliné devant lui. Et il ne voulait pas détruire Mardoché, il voulait détruire le peuple. Et pour ça, il a la place, il a l'autorité pour le faire. La reine Esther, elle va identifier l'auteur. Elle va le voir. Elle va identifier à dire: l'ennemi, c'est Haman. Notre ennemi, je l'ai dit la semaine dernière, c'est le diable. C'est lui qui a beaucoup d'agents à son service. Beaucoup de personnes qui jouent son rôle parce que finalement, il se laisse berner. Mais nous sommes fils de roi. Dans les mains de celui qui nous garde. On regarde beaucoup de défaites, beaucoup de difficultés. Mais on trouve combien de fois que Dieu nous a gardés et a gardé son peuple, a gardé l'intégrité de son peuple. On a essayé de faire disparaître la Bible. La Bible est toujours là. On a décidé de faire disparaître les Juifs. Les Juifs sont toujours là. On a décidé d'éradiquer les chrétiens. Les chrétiens sont toujours là. Pourquoi ? Grâce à eux ? Non. Grâce à leur force ? Non. Grâce au fait que Dieu est là. Et que sa parole, il s'est engagé, sa parole ne disparaîtra point. Mardoché va jouer un rôle. Il va prendre fait et cause. Et la première chose qu'il va être amené à faire, c'est à prier. Jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est intéressant que finalement, la prière, souvent elle nous arrive quand on est au bout. N'est-ce pas ? Quand le problème est là. quand finalement on n'a pas d'autres ressources. Alors Seigneur, fais quelque chose, quoi. J'ai déjà tout essayé. Mardoché va prier. Il va emmener le peuple aussi à prier. Il va se revêtir du sac et de la cendre, s'humilier, montrant à Dieu, Seigneur, écoute, tu connais, il y a un arrêt de mort contre nous. Nous allons disparaître. C'est un acte irréversible avec le sceau du roi. Mais Mardoché va tenir ferme. Et la reine Esther, la reine ne peut venir dans la présence du roi. Vous vous rendez compte ? Monsieur, madame, alors vous avez rendez-vous avec votre mari. Vous voulez lui parler le soir et vous dites, je vais prendre un rendez-vous avec lui. Est-ce que dans son agenda, monsieur voudra bien me recevoir ? Et la reine Esther, elle veut, quand elle veut rencontrer le roi, il faut qu'elle y soit invitée. Et l'acte du roi pour lui montrer qu'il accepte sa présence, c'est de lui tendre son sceptre. Et la reine Esther va aller devant le roi pour plaider la cause. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que même s'il y a un acte prémédité d'éradiquer un peuple, celui qui reste en contrôle, celui qui donne du zèle, celui qui même, quand Haman décide de choisir la date à laquelle il va tirer au sort, la date par laquelle il va éliminer ce peuple, et il la place plusieurs mois plus tard, laissant au peuple le temps de prier. Même en agissant de la sorte, Dieu est en contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est quand la reine va venir devant le roi, au risque et péril, le roi va accepter sa présence et va lui dire, reine, qu'y a-t-il que je puisse faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Puis Esther parla de nouveau et présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, le supplia, c'est le chapitre 8, d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agadite, de la réussite de ses projets contre les Juifs. Et le roi va dire, qu'est-ce que je dois faire ? Alors elle va dire, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, scellé avec l'anneau du roi, comme une lettre écrite au nom du roi, scellé avec l'anneau du roi, et qui ne peut être révoquée. Dieu, lorsque l'épreuve est là, inspire nos actions, n'est-ce pas ? Nous donne des forces que nous n'avons pas. Nous donne un zèle que nous n'avons pas. L'œuvre de l'ennemi, c'est de nous dire, tu n'es pas capable. Tu es terminé, tu es bon à rien. Regarde, ça y est, c'est fini. Heureusement, Mardoché. Heureusement, la reine Esther. Par la grâce de Dieu, on réussit à inverser la tendance. Non pas par leur force, mais par la force que Dieu a donnée. Par ses lettres, le roi, verset 11, regardez, donner aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler, de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants, leurs femmes, tous ceux que de chaque peuple et de chaque province qui prendrait les armes pour les attaquer. Et ce que je trouve intéressant, au verset 17 de ce même chapitre, il est marqué, dans chaque province et dans chaque ville, partout arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs par la crainte des Juifs. Moi, j'ai l'impression, quand je lis ce chapitre, que je lis le chapitre 2 des Actes. Dans le chapitre 2 des Actes, 3000 hommes ont accepté Jésus-Christ, une nouvelle église est née, et finalement, par leurs actions, par leur témoignage, par la force de l'Esprit, des hommes et des femmes viennent à Christ. Et là, au milieu d'un peuple étranger, ennemi, guerrier, polythéiste, des hommes et des femmes changent par crainte d'un peuple dont ils voient la puissance de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire ? N'est-ce pas là une histoire? C'est une histoire, vous pouvez dire, monsieur. C'est une histoire, Jean-Claude. C'est une histoire qui nous sert d'exemple, non? Nos ennemis, notre ennemi, le diable, veut que nous disparaissions. Que nous restions tranquilles, fermés. Que notre vie intègre, notre vie droite, notre vie de prière soit réduite à son plus simple, à sa plus simple expression. Rentre dans ta chambre. Vis ça chez toi. C'est une affaire privée. Mais l'affaire privée a des actions sur ma vie, sur mon travail, sur mes relations, sur mon témoignage. Comment est-ce que je témoigne? Dans beaucoup de vos emplois, vous n'avez pas le droit de prier. Vous n'avez pas le droit de témoigner. Mais vous avez le droit de vivre de manière chrétienne. Intègre, juste, droite. Et ça, la Bible dit que Dieu l'honore. N'est-ce pas? Donc on peut nous demander d'être silencieux, mais on ne peut pas nous empêcher de vivre. On ne peut pas nous empêcher d'être honnête. On ne peut pas nous empêcher d'être droit, d'être juste. Lorsque le jour de l'affrontement arrive, contre toute attente, les Juifs remportent une éclatante victoire. C'est le chapitre 9 et le verset 1 qui le dit. Une victoire totale. Les blessures de l'âme, les blessures du corps, les blessures de l'esprit peuvent être balayées par les armes de Dieu. Dieu ne demande pas de tuer. Tout à l'heure, notre frère a dit « faut éliminer les homosexuels ». Dieu ne veut pas éliminer les homosexuels. Il veut enlever l'homosexualité. Mais il aime l'homosexuel. Dieu aime la personne. Il n'aime pas le péché. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse. Quand on fait des lois qui autorisent ces choses, il faut lutter contre la loi. Mais il faut aimer les personnes. Et c'est ce que Dieu fait. Si Dieu n'avait pas aimé le pécheur, mes amis, on ne serait pas là ce matin. Aucun d'entre nous. Aucun. Parce que nous sommes tous condamnés à mort. Parce que nous n'avions plus de relation avec Dieu. Alors je ne suis pas pour l'homosexuel. Je suis contre l'homosexualité. Parce que la Bible la condamne. Mais Dieu veut que cette personne change. Comprenne. Tout autant que l'alcoolique, tout autant que l'impudique, tout autant que ceux qui ont la mauvaise langue. Vous savez, on a vite fait de catégoriser les gens. Vous savez, il y a le péché, alors, oui, enfin, le commérage, c'est pas grave. Piquer un peu dans la caisse, c'est pas grave. Dire, mais alors, l'homosexualité, oh là là! Et celui qui dit raca à son frère, imbécile. Et aussi coupable que s'il le tue. Et que, on a vite fait d'arranger. Mais prions. Prions que notre témoignage touche comme le peuple là. Comme ce peuple qui avait pour seul moyen de contestation, quoi? Le jeûne et la prière. De se mettre à part, de dire, Seigneur, écoute, interviens. Il n'y a que toi qui puisses intervenir. Même la reine ne peut pas intervenir si elle n'y est invitée. Et Dieu a permis que la reine intervienne. Le personnage de Mardoché, c'est un peu un modèle, un type de chrétien moderne. Il vit au milieu d'un peuple dont il ne peut pas vraiment suivre le modèle. Il a ses convictions. Et il est bercé quand il entend l'arrêt définitif. Mardoché est un étranger qui vit à Suse, dans la capitale. Capitale, quand vous visitez les grandes villes, notre frère a dit Hein, en visitant certaines villes de l'Est, c'est très propre. D'extérieur, c'est très propre. Mais d'intérieur, dans la vie des gens, qu'est-ce qu'il y a? Une ville peut être propre ou sale. Ce qui compte, c'est le cœur des gens, c'est la population. Et Mardoché, il vit là, au milieu d'un peuple. Mais il est étonnant de voir ce personnage discret, humble, d'un seul coup se rebeller lorsqu'il s'agit de se courber devant Haman. Oh, ça ne change rien. Qu'est-ce que ça aurait changé du fait que Mardoché ait fait le signe de la tête? Mardoché a dit, il y en a un dont le sol devant lequel je veux m'incliner, c'est Dieu. C'est pas écrit, mais c'est comme ça qu'il dit. Et finalement, il va braver l'ordre des autorités. Être humble ne veut certainement pas dire que nous devons nous incliner, nous effacer devant tout le monde. Mardoché montre que si sa vie religieuse est discrète, son respect pour Dieu est au-dessus de toute chose. En cette occasion, Mardoché ose affirmer qu'il ne se prosterne et ne se prosternera pas devant l'ennemi héréditaire du peuple de Dieu. Ce n'est pas un grand livre, le livre d'Esther, mais c'est un livre que j'ai entendu raconter ici aux enfants, que j'avais lu plusieurs fois. Oui, je l'ai entendu plusieurs fois chez vous, mercredi. Mais c'est un livre qui me touche à chaque fois que je le lis. Parce que quelque part, je me dis, mais nous, dans des circonstances difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le mouvement, on ne fait pas de vagues. Même quand il entend parler d'un attentat contre le roi, il va en parler au roi. Au risque, lui, de se faire décapiter, Mardoché. D'avoir des conséquences. Quand on voit des choses négatives, quand on voit des choses qui ne sont pas bien, est-ce que nous faisons attention à ce qui se passe? Est-ce que nous prenons le risque de dire « Hé, il y a quelque chose de bien qui se passe ?» Tant que Mardoché a vécu sa vie spirituelle sans faire de bruit, sa position était confortable. Le fils de la déportation avait une vie sociale qui lui procurait une certaine aisance, un certain bien-vivre, un certain confort. Les choses ont pris un autre tournant lorsqu'il a montré publiquement son attachement à la personne du roi, son véritable maître. Fou de rage devant la résistance passive que lui oppose Mardoché, alors la conséquence, c'est que le peuple va être atteint. Jésus nous a avertis. Dans Matthieu 10, 22, si vous voulez tourner les pages avec moi, Matthieu chapitre 10, verset 22. Le frère, verset 21, Matthieu 10, le premier évangile. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On attend que notre gouvernement, que nos autorités nous reconnaissent, nous disent c'est bien. Notre gouvernement nous dit soyez discrets. Soyez discret. Ne faites pas de vagues. J'étais dans le bureau d'une autorité nationale il y a bien des années. Et cette autorité nationale me regarde et me dit « Monsieur le pasteur, nous avons peur de vous !» Je lui dis « Vous avez peur de nous ?» Il dit « Oui !» J'ai dit « De nous, moi en tant que pasteur ?» Il dit « Non, vous les chrétiens, on a peur de vous. Parce que vous vous multipliez, on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas ce que vous faites. » Mais à chaque fois qu'on vous voit, vous avez l'air tellement heureux. J'ai dit, en quoi ça vous fait peur? Ben, on ne sait pas comment vous allez réagir. Qu'est-ce qui fait peur aux gens? Qu'est-ce qui fait peur aux autorités? Qu'est-ce qui fait peur au peuple qui nous entoure? Que nous aimions Dieu? Que nous soyons droits, justes, honnêtes, intègres? Ou que finalement nous fassions comme tout le monde? Que nous gâchions le témoignage de Jésus-Christ par notre manque de conviction. Lorsqu'ils apprennent qu'ils sont condamnés à mort, Mardoché et ses co-légionnaires se réfugient dans le jeûne et la prière. C'est le chapitre 4. Ils pleurent. Ils se lamentent. Mais regardez bien, si vous allez au chapitre 4, verset 3, vous allez découvrir que le peuple prie, se lamente, mais qu'il y a une chose qu'ils ne font pas, ils ne se révoltent pas. Mais pourquoi Dieu, tu nous fais ça à nous? Mais pourquoi moi? C'est notre réaction, n'est-ce pas? Quand il nous arrive, quand on explose un pneu le premier jour de ses vacances. Et qu'on regarde le pneu et qu'on dit, oh, ça va me coûter un bras le truc. Pourquoi, Seigneur? On peut être révolté, n'est-ce pas? On peut être fâché contre ce Dieu qui a laissé faire les choses. Qui n'a pas réveillé l'attention du chauffeur. Attention, il y a un trottoir. Et ça, c'est une petite chose, n'est-ce pas? Mais quand on a un gros accident, quand on a une grosse, quelque chose de difficile, un deuil, est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est la prière en disant, Seigneur, aide-moi? Aucune personne raisonnable n'éprouve de la joie en face de l'épreuve. Oh chouette, j'ai eu un accident aujourd'hui. C'est super, je vais pouvoir mettre ma foi à l'épreuve. S'il y a quelqu'un qui réagit comme ça un jour, moi je vais dire, écoute, on va s'asseoir. C'est certainement un peu fatigué. Bon, on réagit tous parce que nous sommes humains et parce que l'épreuve n'est pas un sujet de réjouissance, mais un sujet de foi où nous pouvons nous tourner vers ce Dieu en disant, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai peur. On m'a posé la question récemment, est-ce que c'est normal qu'un chrétien il ait peur? Il peut avoir peur. C'est pas illégal, c'est pas anti-biblique la peur. Ce qui est anti-biblique, c'est de rester dedans et de se dire, qui va me délivrer? Et de se tourner vers Dieu, dire, Seigneur, j'appréhende le futur, j'appréhende les événements. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour ceci. Mais Seigneur, calme mon cœur et prends soin. Mardoché a jeûné et prié. Il a trouvé au sein de ce temps à part un Dieu qui transforme les événements de sa vie et de la vie de ceux qui se confient à Dieu. Dieu utilise toutes les épreuves de notre vie, toutes les circonstances de notre vie, vous savez ça? Pour nous tenir dans sa main, pour nous faire passer par des choses où on n'aurait pas été nous-mêmes. Ah, si j'avais choisi un chemin, certainement je ne serais pas passé par là. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de venir là? Dans nos prières, on demande, et je le dis souvent récemment, mais c'est un peu la réalité, Dieu nous met devant des épreuves que nous ne voulons pas, que nous refusons. Mais si au travers de cette épreuve, Dieu nous apprenait quelque chose, si au travers de cette épreuve, Dieu nous permettait de montrer aux autres notre foi, notre confiance en Dieu, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine? Une sœur en Christ, il y a bien longtemps, a été trouvée, diagnostiquée avec un cancer à l'intestin. Et c'était une femme de prière absolument incroyable dans l'église où j'étais. Et cette femme était un peu anéantie par ce diagnostic. Mais elle a dit, écoute Seigneur, si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Si tu veux que je meure, je meurs. Et permets que tout ce temps que je passerai à l'hôpital, je puisse parler de toi. Et partout, elle n'était pas dans son lit, on n'était pas en train de lui faire des soins. Cette dame-là, elle parlait de Jésus-Christ. Et à chaque fois, les infirmiers, ils allaient dans sa chambre, les infirmiers, les infirmières, les médecins, ils étaient étonnés de quelque chose. Ils disaient, mais cette femme, elle a... C'est incroyable, quoi. On vient pour la rassurer, on vient pour lui faire du bien. C'est nous qui ressortons en disant, la dame, elle a le moral. Et dans sa grâce, elle est rentrée pour son intervention. Elle est rentrée pour son intervention prévue le lendemain. Elle est rentrée, elle a dit, madame, on va faire un dernier diagnostic, on va faire les dernières radios, on va faire les derniers examens pour vérifier. Demain matin, 8h, c'est sûr, vous êtes opérée. Il la met dans son lit, passe les examens, la couche. Et à ce coup, il y a un médecin, il revient 2 heures ou 3 heures plus tard, il fait, madame, il y a un problème. Elle dit, ça s'est aggravé. Ben non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait plus rien. Hier, c'était pas bien, aujourd'hui, c'est pas normal. Et la sœur de le regarder, qu'est-ce qu'il y a de normal là-dedans? C'est mon Dieu qui a fait ça, c'est pas vous. Vous êtes un bon médecin, mais moi j'en ai un meilleur. Mais ça n'arrive pas à toutes les fois. Ça n'arrive pas à toutes les fois. Des frères, des sœurs sont décédés. Mais dans la paix. Est-ce que Dieu peut nous donner cette force, comme au peuple avec Esther et Mardoché, de rendre un témoignage devant Dieu et dire, Seigneur, il y a une condamnation sur moi, mais personne ne peut me prendre la vie que toi tu m'as donnée. Personne ne peut m'enlever de cette terre si toi, tu n'as pas donné l'autorisation. Mardoché a trouvé la peur, la paix. Regardez chapitre 4, verset 11. Je vais bientôt arrêter parce que c'est l'heure. Je vous invite à lire ce chapitre, hein, ce livre. Esther chargea Astrak d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi, le peuple des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. » Et vous savez, je vais terminer par deux choses. La reine, elle sait exactement ce qu'elle risque en rentrant chez le roi. Elle sait qu'elle risque la mort. Mais elle y va. Et le roi va lui tendre son sceptre en disant, je t'autorise. Et puis, Haman, c'est le méchant, le destructeur. Il veut éliminer Mardoché. Et puis, le roi lui questionne et lui dit, mais Haman, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour anoblir quelqu'un? Et là, il lui donne tout ce qu'il faut faire pour rendre honneur à quelqu'un. Il dit, bah, tu sais pas, tu vas le faire avec Mardoché. Moi, je trouvais intéressant de trouver que l'ennemi avait pris Mardoché, celui qu'il voulait éliminer, pendre. Et d'ailleurs, c'est lui qui sera pendu. Et qui, finalement, va donner, glorifier Mardoché. Frères et sœurs, Dieu nous a revêtus d'un manteau, de son manteau. Dieu nous a donné ses armes, les armes de l'esprit, non pas pour détruire les autres, mais pour les amener à la vie. Dieu nous a donné les moyens de résister par la prière. Dieu nous a donné les moyens de vivre par sa parole et par son esprit. Tout comme Moïse la semaine dernière avec Aaron et Hur. Dieu a donné son église pour que nous puissions marcher ensemble. Et pour que ce que nous ne pouvons pas faire tout seul, nous puissions le faire à plusieurs. La prière est une arme que l'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas que nous prions ensemble. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons d'accord sur les sujets. Parce qu'il est marqué dans la Bible, si deux ou trois s'accordent, si deux ou trois s'accordent, alors je leur ai fait. Et ce que le diable veut par excellence, c'est que nous ne soyons pas d'accord, que nous ne soyons pas ensemble pour lever le sujet de prière, pour parler des menaces, pour parler des craintes, pour parler des difficultés, pour parler de l'avenir, pour parler des jeunes, pour parler du chômage, pour parler et de dire, Seigneur, tu vois, c'est mon frère, c'est ma sœur. Tu l'aimes de la même façon que tu m'aimes. Tu peux tourner aussi mon ennemi pour qu'il se tourne vers toi aussi. La reine Esther, au chapitre 5 et au verset 1, il est marqué « Le troisième jour, Esther mit des vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. » Je termine avec cette image. La reine Esther a revêtu ses vêtements royaux. Vous savez qu'on soit en Bermuda pendant l'été, en costume cravate le dimanche matin, nous avons nos vêtements royaux. Parce que Dieu nous a revêtus de sa vie, de son vie, pour que nous puissions avoir accès direct. Alors, c'était très bref, c'était un survol, je voulais le faire assez vite. Mais relisez ce livre. et trouver qu'est-ce qui pourrait changer dans notre vie. Dans notre vie. Que Dieu fasse encore des prodiges parmi nous. Pour qu'il nous permette ensemble de traverser les épreuves, de traverser les événements 2016-2017. Que Dieu soit glorifié. Pas le peuple. On n'a pas la reine Esther avec nous, on n'a pas Mardoché. Mais nous avons des hommes et des femmes à qui Dieu a donné les vêtements royaux. Parce qu'il est notre roi. Et parce qu'il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour résister à cette vie. Amen.
Amen.
On va prier.